Bonjour à tous, bienvenue sur Bac FM. Aujourd'hui, je me retrouve avec Nathan et Chloé et on se retrouve pour interviewer Sophie Galabrou, qui est née en 1990, qui aujourd'hui a 33 ans, si je ne me trompe pas. Elle est agrégée et docteur en philosophie, a fait une thèse nommée « Le temps à l'œuvre » en s'inspirant des pensées d'Emmanuel Lévinas. Et aujourd'hui, on va discuter avec elle de son dernier ouvrage qui est « Le visage de nos colères », qui est présenté au prix lycéen du livre philosophique. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie, merci à vous d'avoir lu donc cet ouvrage et je suis très heureuse de pouvoir être là avec vous pendant un petit moment et de répondre à vos questions.
On va commencer par la toute première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
C'est une question intéressante, difficile, parce qu'il y a énormément de facteurs qui ont joué. Évidemment, c'était une question, la colère, qui était une question autour de laquelle je tournais depuis très longtemps. Depuis déjà mon adolescence et mes premières années après le bac, et parce que c'était une émotion que j'avais sans vraiment le savoir, que je refoulais, que j'avais du mal à comprendre, à exprimer. Donc j'ai mis du temps à analyser, à assumer, et dès lors que j'ai pu l'exprimer et la regarder en face, elle m'a permis d'être un véritable moteur dans ma vie pour des projets, pour faire des choix plus intéressants pour moi, pour savoir aussi qui je voulais être, mes désirs, mes valeurs. Donc je me considérais que c'était une émotion absolument fascinante et très mal perçue et mal comprise. Et non seulement j'ai pu faire ce constat pour ma vie personnelle, mais je faisais aussi ce constat pour la vie des autres que j'observais et même la vie collective et politique que je regardais. Et évidemment, certaines crises, certaines colères sociales, et notamment la crise des Gilets jaunes en 2018, juste après d'ailleurs ma thèse, m'a beaucoup interpellée. Et j'ai commencé à écrire ce livre pendant le premier confinement, qui était également une période de crise, une période difficile, qui pouvait remuer des affects négatifs comme la peur, mais aussi encore la colère. Et donc là, je me suis lancée dans l'analyse, l'exploration et l'écriture de ce livre.
Alors, sur le titre, pourquoi avez-vous mis un S à colère et pas à visage ? Nos différentes colères n'ont-elles pas qu'un seul visage ?
Il est vrai. Pour tout vous dire, j'ai trouvé ce titre en lisant de la poésie, en lisant la poésie notamment de René Char. Et il y avait un très très beau vers dans un de ses recueils qui s'intitule « Fureur », si je ne me trompe pas, « Fureur et mystère ». Et un de ces très beaux vers disait « Le visage de nos colères ». Et j'ai trouvé ça tellement beau que je l'ai repris tel quel. Et je trouvais qu'il y avait du sens à parler des colères, parce qu'il y en a de divers types. Il y a la colère de frustration, il y a la colère d'impuissance, il y a la colère liée à l'injustice, la colère liée à la privation de liberté. Il y a aussi des fausses colères, et j'essaie dans ce livre de montrer quelles sont ces fausses colères que l'on confond peut-être avec de la haine, avec du caprice ou de la tyrannie ou de l'autoritarisme. Et donc pour moi, il était intéressant d'avoir ce pluriel pour les colères. J'aurais pu dire effectivement les visages de nos colères, mais j'ai voulu tout simplement rester proche de ce vers. Je trouvais très beau, très poétique, je trouvais que la formule ainsi était plus belle. Ça compte, l'esthétisme. Et quelque part, c'est la philosophie, cet ouvrage de philosophie visait à découvrir le visage de divers types de colères. Ça me paraissait aussi cohérent.
D'accord. Ensuite, pourquoi la colère a-t-elle en général le mauvaise presse ? Pourquoi elle est mal perçue par la société ?
Ça a été toute l'enquête de la première partie. Je n'avais pas de réponse immédiate. Ce qu'on peut tout de suite comprendre, c'est tout de même qu'elle met mal à l'aise, qu'elle gêne, qu'elle embarrasse. Parce que tout à coup, quelqu'un se met à briser des convenances sociales, des conventions, des normes, brise tout cela pour, comment dire, proposer un moment de franchise, proposer un moment de vérité. Alors, il n'est pas dit qu'il touche ou elle touche à la vérité la plus pure, la plus exacte, et qu'il n'y ait pas parfois des imprécisions, mais tout de même, quelqu'un qui a une véritable colère et qui l'exprime prétend se relier à une vérité et à la dire en fracturant le filtre ou la glace des conventions. Et je trouve que c'est, à mon avis, la première raison pour laquelle la colère met mal à l'aise. Parce que quelqu'un cesse de jouer le jeu social, cesse de porter un masque, le masque de la personne sociale, pour dire quelque chose qui semble en fait être dans l'air, naviguer entre nous, circuler, mais sans être vraiment dit et exprimé à un moment donné la continuité des rapports pour dire une vérité qui peut déranger, qui peut faire peur, qui peut mettre mal à l'aise ou qui implique un changement. Et la nouveauté, l'inconnu fait souvent peur. Donc je pense qu'il y a malaise, mais il y a aussi peur autour de la colère.
Dans votre livre, vous distinguez l'émotion de la passion pour ranger la colère du côté de l'émotion. Pourquoi cette distinction vous semble-t-elle importante ?
Alors, il faut peut-être repréciser le vocabulaire, c'est-à-dire qu'on parle de la colère, et je peux en parler comme d'une passion. On trouve plutôt le vocable de la passion chez les Grecs, chez Aristote, chez Sénèque, ou encore chez Descartes avec son traité des passions de l'âme. C'est un terme qui est préféré pour mettre l'accent sur la position de passivité et d'inertie de l'âme face à la puissance du corps. D'ailleurs, Descartes commence lui aussi, déjà dans les traités des passions de l'âme, à parler d'émotion. Mais c'est un terme beaucoup plus récent qui est davantage employé au XIXe siècle et qui va remplacer progressivement celui de passion pour mettre l'accent sur l'idée qu'il y a motion, il y a mouvance, il y a un mouvement à l'intérieur de l'être qui subit l'affect de la colère, par exemple, et que ce n'est pas simplement que l'âme est inerte ou passive ou écrasée par le corps, mais elle aussi est mise en mouvement et bouge et cherche à atteindre une certaine direction, un certain horizon. Et j'ai préféré le terme d'émotion qui est plus moderne et même contemporain. J'aime bien aussi celui d'affect. Ce n'est pas que... C'est un changement de vocabulaire qui veut quand même dire quelque chose, encore une fois, qui signifie que dans la colère, il n'y a pas que le corps qui est en mouvement, qui écrase l'âme. L'âme aussi se rebiffe, bouge, se rebelle, se révolte et part dans des directions nouvelles. Et j'aimais bien cette connotation de mouvement, y compris pour l'âme, et qui est une connotation plus moderne et contemporaine.
Je vois, je vous remercie. Pourquoi est-ce qu'il faut dissocier la colère du caprice ?
Alors, la distinction est venue au sujet des enfants et des adolescents. C'est-à-dire que je remarquais que la colère des enfants et des adolescents en particulier était rabattue par les adultes ou les personnes plus âgées sur le caprice. Et ça me dérangeait parce qu'il y a des colères infantiles ou des colères jeunes qui sont reliées, comme les colères profondes, à la notion de justice ou de liberté ou d'impuissance. Et ce ne sont pas simplement des caprices. Ce qu'on entend par caprice, c'est plutôt l'idée, ou je dis crise de tyrannie. C'est l'idée chez l'enfant comme chez l'adulte d'ailleurs de ne pas supporter que l'autre ne suive pas son désir, sa volonté, son ordre, son injonction. Et donc on a affaire à en fait une crise de domination dans le caprice comme dans la tyrannie, qui est un terme beaucoup plus fort et politique. Mais quelque part, moi je mets le caprice et la tyrannie sur la même ligne. Pour moi, ce sont deux choses de même nature, mais à des degrés différents. Et la tyrannie a une signification politique puisque c'est un type de régime et d'usage du pouvoir d'un homme ou d'une femme seule contre son peuple. Mais en tout cas, si on revient au cas des jeunes et des enfants, le caprice est aussi une crise de domination à leur niveau. Il s'agit de tester les limites de l'autre, du parent par exemple, ou d'imposer ses desiderata et ses injonctions en faisant fi des autres et de l'altérité. Ce qui est une attitude problématique, en tout cas dont on peut parler, mais qui est quelque chose de différent et d'à part de la colère. La colère infantile ne vise pas à dominer l'adulte ou le parent, ne vise pas à entrer en rapport de force pour dominer, mais à réaffirmer sa place, son territoire, son intégrité, à faire valoir des peurs ou des blessures, et donc cela n'a rien à voir avec la domination. C'est simplement un repositionnement de son être face à l'autre. C'est cela que j'ai voulu mettre en avant en distinguant ces deux termes. Surtout au niveau des enfants et des adultes, parce que c'est toujours à leur niveau qu'on parle de caprice. Et de manière très souvent injuste et indue, et j'avais donc besoin de rétablir des distinctions, des limites.
Paradoxalement, que peut-il y avoir de rationnel et de raisonnable dans le fait de se mettre en colère, ou en tout cas d'éprouver de la colère ?
Ce que j'essaye de montrer, en cela avec l'aide d'Aristote, qui en parle dans l'Éthique à Nicomaque, c'est que la colère est une vertu morale. Et comme toute vertu morale, bien sûr qu'elle est liée au sensible, à la sensibilité, et donc à une part, on peut dire, purement corporelle, charnelle. Mais ce corps en émoi ou dans un malaise ou bouillonnant dit déjà quelque chose, a déjà précompris une situation déséquilibrée, disharmonieuse, problématique. C'est ce que j'essaye de défendre avec l'aide notamment d'Aristote, mais en radicalisant son geste. C'est de dire que le sensible et le corps vivant, lorsqu'il réagit, ne le fait pas pour rien, ne le fait pas sauvagement, brutalement et sans aucune raison. il a déjà pré-compris quelque chose sans avoir besoin de conscience ou de verbalisation. Et ce qu'il a pré-compris, c'est qu'une intégrité est atteinte, une harmonie est brisée, un équilibre n'est plus là. Et quelque part, ce malaise du corps ou ce trouble et cette émotion qui monte pousse la conscience et la raison calculatrice, verbale, à réfléchir et à regarder cette situation qui semble ne plus fonctionner. Et d'ailleurs, la neurobiologie, et je m'aide également des neurobiologistes, indique que les 6 émotions primaires dont fait partie la colère ont une fonction vitale qui est de maintenir l'organisme dans un équilibre, dans une homéostasie, de l'aider à s'adapter, à survivre, et que si la colère existe, c'est qu'elle a en effet une fonction vitale et psychobiologique, qui est de parer à une menace, à un danger. Et chez l'être humain, qui est un être de culture et de raison, les signaux qui suscitent la colère ne sont pas que le danger et la peur, mais aussi des valeurs comme la justice et la liberté. Et donc voilà comment j'essaye de réconcilier la raison et le sensible, le corps et l'intelligence, et en disant, en réaffirmant philosophiquement et scientifiquement que l'émotion a compris quelque chose d'une situation et y réagit et envoie des messages signifiants et qu'il faut finalement ensuite regarder, assumer et décortiquer.
Je vois, je vois. Tout de suite, petite pause musicale, toujours dans le thème de cette colère, avec Song 2 de Blur.
Oh,
Vous êtes sur Bac FM et vous venez d'écouter Sanctus. Nous reprenons tout de suite sur notre interview de Sophie Galabru sur son livre Le visage de nos colères. Donc la prochaine question que je me suis posée, c'est est-ce que se mettre en colère s'apprend? Et donc est-ce qu'on peut désapprendre à nous mettre en colère?
C'est une excellente question qui fait partie du problème lié en effet au discrédit de la colère, c'est que on nous apprend très jeune à désapprendre cette émotion. Désapprendre cette émotion, ça veut dire la culpabiliser ou la juger lorsqu'elle apparaît, par exemple, chez un enfant, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc, assimiler une colère pure, liée, par exemple, à une blessure, à une humiliation, l'assimiler à un caprice. Ne pas faire l'effort, en tant que parent, en tant qu'adulte, en tout cas, d'identifier la cause, l'origine de ce surgissement et le rabattre trop facilement et trop rapidement sur une manifestation capricieuse ou tyrannique, un rapport de domination. Et cela contribue à brouiller les pistes et à ne pas apprendre à l'enfant à identifier son émotion, sa raison d'être, ses fonctions, et ça l'incite simplement à s'en sentir embarrassé, honteux et à la refouler. Et le refoulement de la colère a des conséquences psychosomatiques, parfois très problématiques, hein, est un vrai problème de santé, puisque ça peut créer, par exemple, des maladies de peau, des ulcères, de l'asthme, toutes choses qu'ont repérées un certain neurologue, neurobiologiste. Donc, déjà, ne pas comprendre d'où elle vient, pourquoi elle surgit, qu'elle n'est pas mauvaise, qu'elle n'est pas un mal en soi, parce qu'une émotion n'est ni bien ni mal, elle n'est pas morale, elle est amorale. Elle surgit, c'est un fait. Donc, il suffit, en fait, de l'identifier, de comprendre pourquoi elle surgit, d'analyser ses fonctions et de comprendre, alors, comment l'exprimer. Évidemment, peut-être dans le plus grand calme, avec le plus de mots possible, c'est toujours préférable. À trouver des directions pour que cette colère disparaisse et soit apaisée. Des directions pour obtenir justice, pour obtenir une réintégration de sa place, de son territoire, etc. Tout ça, effectivement, s'apprend et sinon se désapprend quand on est enfant, par exemple. Et je crois qu'il est très important que, en tant que parent ou en tant qu'adulte, en tout cas, nous fassions une introspection sur l'éducation reçue, parce que l'éducation européenne, occidentale et judéo-chrétienne notamment, en tout cas imprégnée de judéo-christianisme, est une éducation qui a vraiment mis de côté et balayé ses émotions, les considérant comme gênantes, irrationnelles et indignes des enfants. Indignes des enfants, on en reparlera peut-être, et également des femmes, comme des personnes, des minorités exclues. Donc, il faut réapprendre à leur donner une place, à comprendre qu'elles ne sont pas immorales ni irrationnelles, et voir justement la place qu'on peut leur donner, la verbalisation qu'elles peuvent prendre, et des solutions parfois en passant par des actions concrètes. Et donc, voilà, tout cela est un travail à faire, et que doivent engager les professeurs, les enseignants, les tuteurs, les parents, avec les plus jeunes.
Mais donc, ça veut dire que selon vous, il y a un âge pour la colère, une période de la vie où elle serait plus marquée par des éruptions de colère que d'autres?
Oui, on le sait également, la psychologie et la psychanalyse l'ont montré. Il y a des colères de frustration chez l'enfant, par exemple, de 2 ans, qui commence à prendre un peu plus d'autonomie, un petit peu, qui commence à apprendre à marcher, à parler, et qui, face à ces nouvelles conquêtes, peut parfois prendre des risques, se mettre en danger. Et donc, ses parents ou ceux qui s'occupent de lui lui mettent des limites. Et donc, il y a des colères de frustration liées à ces limites, des colères d'impuissance, parce qu'on n'arrive pas à tout réaliser quand on est encore petit ou enfant. Et ces colères-là sont parfaitement compréhensibles et normales et légitimes. Où il peut y avoir des colères liées à l'angoisse de se séparer de ses parents. Ce sont des colères et des angoisses qu'on retrouve d'ailleurs parfois tout au fil de sa vie. Et je pense aussi que les enfants sont plus sujets aux colères parce que ce sont des individus qui sont structurellement beaucoup plus dominés que les autres. Puisqu'en effet, ils sont en situation de vulnérabilité. Qui dit vulnérabilité dit besoin de sécurité, de protection, besoin affectif. Et donc, tous ces besoins font qu'ils sont hiérarchiquement soumis à des tuteurs et des parents. Et puis, ils le sont aussi juridiquement soumis. Et donc, toutes ces soumissions, cette sujétion peut provoquer de la frustration, du rejet. C'est tout à fait normal et compréhensible, même s'ils ont, on peut quand même justifier le besoin d'un cadre. Hein. Quand on grandit, quand on évolue, on a besoin d'être élevé, éduqué, orienté, évidemment sans excès d'autoritarisme. Mais en tout cas, toutes les injonctions, tous les petits ordres, toutes les directives qui sont données en permanence aux enfants, évidemment, suscitent des frustrations et des colères, des micro-colères, parfois conscientes, parfois inconscientes. Donc oui, je pense qu'il y a des âges de la vie, notamment à partir de 2 ans et encore jusqu'à l'adolescence au moins, où les colères sont très fréquentes, parce qu'il y a suggestion et il y a des ordres et des commandements permanents. Et donc, évidemment, il y a beaucoup plus de colères qui surgissent, beaucoup plus qu'à l'âge adulte, oui. Mais d'ailleurs, et c'est tout le propos de mon livre, les colères qui auront été culpabilisées, rejetées, refoulées, balayées, ou tout simplement jamais exprimées dans l'enfance et l'adolescence, sont des colères qu'on retrouve très souvent à l'âge adulte, qui vont s'exprimer bien plus tard. Et sur des personnes qui n'ont parfois rien fait, alors ça va être des parents qui, en fait, vont exprimer des colères qu'ils n'ont jamais exprimées enfant, à un âge bien plus tardif, et contre les mauvaises personnes, parce qu'en fait, c'est pas contre leurs enfants qu'ils devraient parfois exprimer leur colère ou leur conjoint, c'est contre peut-être leurs parents, s'ils ont des choses à leur reprocher ou des critiques à émettre. Donc, en fait, parfois, il y a des colères à retardement.
Est-ce que pour vous, du coup, tout le monde a le droit de se mettre en colère ?
Absolument. Absolument. Tout le monde a le droit, c'est évident, mais de toute façon, ce n'est même pas un droit, c'est ce que j'essaye de dire quand je disais que la colère n'est pas immorale. Elle n'est pas non plus illégale. C'est un fait. C'est-à-dire que le corps l'exprimera toujours, puisque c'est une émotion primaire et vitale. Donc elle aura toujours lieu, elle surgira toujours, parce que c'est un outil d'adaptation, de survie et de protection de soi-même. Elle aura toujours lieu.
D'accord.
Et c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, évidemment, ce qu'on va en faire peut avoir parfois des conséquences immorales ou illégales. Donc il faut travailler cette colère pour lui donner des directions et des formes intéressantes et justes vis-à-vis des autres.
Donc la colère est à vos yeux une source profonde de l'inspiration créatrice, et si c'est le cas, quelle forme artistique typique prend l'expression de cette dernière ?
Oui, c'est ce que j'ai voulu voir, parce qu'on a tendance à répéter, notamment quand on étudie la psychanalyse, que vous avez sûrement étudié, cette année, Freud a mis l'accent beaucoup sur le désir, l'éros ou la libido, c'est-à-dire cette énergie sexuelle qui nous habite tous et toutes, qui n'est pas qu'une énergie qui est simplement en demande d'actes sexuels ou de reproduction, mais qui est une énergie qui irrigue toute la vie, tous nos projets, toutes nos actions. Et j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas que la libido et l'énergie sexuelle qui poussent à créer, à initier des projets, il y a aussi l'énergie de la colère, ce qu'on appelait chez Platon, ou dans le monde grec en tout cas, le thumos. Et un autre psychanalyste comme Alfred Adler, dont je parle dans le livre, s'y est intéressé. Et je crois qu'il a raison d'avoir mis en avant cela, contrairement à Freud, puisque certains artistes, comme Banksy, par exemple, le street artist, ou alors Nikita Saint-Phal, ou encore Armand, qui est un artiste un peu moins connu aujourd'hui, mais qui était un artiste très important dans les années 60, sont des artistes qui utilisaient la colère, la rage destructrice, pour alors soit fracturer des objets, comme Armand, ou Nikita Saint-Phal, qui tirait à bout portant sur ses œuvres. C'est une énergie très importante pour créer la destruction. Alors, soit parce qu'on fait des œuvres qui expriment carrément le happening de la rage et de la destruction, soit parce qu'on détruit, mais ça donne finalement quelque chose de résiduel, d'intéressant. Comme avec Nikita Saint-Phal ou encore Jackson Pollock qui balançait de la peinture avec une certaine violence. Donc oui, on voit bien, on le constate. Et puis là, je parle beaucoup des artistes peintres, ou des street artistes, mais il y a aussi des cinéastes comme Ken Loach qui revendiquent la colère politique comme un moteur de création.
On va en parler un petit peu. En général, quel traitement est réservé à l'expression de la colère ? Par exemple, sous les manifestations, dans les grands médias télévisuels, radiophoniques ou même dans la presse écrite ?
Bon, on peut le voir encore aujourd'hui. Enfin, ça a sûrement un peu changé depuis la crise des Gilets jaunes. Mais globalement, et encore aujourd'hui, il y a un discrédit énorme et une condamnation très importante des commentateurs et commentatrices politiques, des éditorialistes et même des gouvernants. La colère, qui est pourtant un affect profondément démocratique et républicain, puisque par exemple en France, on a quand même une tradition révolutionnaire liée à 1789 qui est animée par la colère et même par la haine. Et on a tendance à l'oublier pour finalement dire aujourd'hui que la colère est dangereuse, qu'elle est un péril démocratique et républicain, qu'elle pourrait donner lieu à la montée des extrêmes et des populismes. Tout un jargon, un vocabulaire est utilisé pour discréditer des mouvements de foule, des manifestations, des pétitions et des barrages faits à certaines décisions ou projets de loi.
D'accord. On va passer à la dernière question avant de conclure.
Oui.
Est-ce que vous travaillez actuellement sur un autre essai, un autre livre ou d'autres projets autour de l'écriture ?
Oui, absolument. Je travaille sur un nouvel essai qui paraîtra mi-octobre.
D'accord.
Dont je ne peux pas encore tout dévoiler, mais qui est un essai qui traite à nouveau, qui s'intéresse encore beaucoup à la question de l'enfance et de la jeunesse. Qui balayera, comme cet essai, plusieurs aspects intimes et politiques.
D'accord.
Donc, rendez-vous le 12 octobre pour
D'accord, c'est noté. Merci beaucoup.
Merci à vous pour vos questions. Merci beaucoup.
Et donc, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois et d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
Nous allons donc nous quitter sur un son qui se nomme Killing in the Name de Rage Against Machine. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur BAC FM. Au revoir.
Au revoir à tous. Et à
merci.
Tous.
Merci.
won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you,